Yaor Analytiki, je suis Johan Padin et vous écoutez mon podcast Booksta Auto-édition dont voici le second épisode. Tous les mois, je compte vous proposer une émission autour de l'auto-édition et le thème de ce podcast tourne autour du pognon, ce sujet qui est encore plus tabou que le sexe. Sauf que quand on est auto-édité, il faut bien fixer un prix et communiquer dessus, ce qui amène à la question très légitime du qui gagne combien dans le monde de l'édition. Et voire même, qui c'est qui y gagne le plus? Est-ce que c'est le libraire? Est-ce que c'est l'éditeur? Ou bien encore l'auteur? Ou même, est-ce que ce serait le grand méchant Amazon? Dans le cas de l'e-book, d'ailleurs, qu'est-ce que ça change? Eh bien, je vais répondre à toutes ces questions sur la base de mon vécu, car c'est tout l'objet de ces podcasts, partager mon expérience d'écrivain avec ses réussites et ses déboires. Et oui, je suis un auteur indépendant, auto-édité, et à ce jour, j'ai publié 5 romans sur Amazon et bientôt le 6e. Si cette émission vous interpelle, n'hésitez pas à venir sur Insta pour échanger sur le sujet. Mon compte Johan H. Padin, tout attaché, vous est ouvert avec grand plaisir. Vous pouvez aussi retrouver le contenu de ce podcast au format textuel sur mon site auteur www.yhpadines.fr. L'ensemble de mes podcasts est disponible sur Amazon, Spotify, Deezer et probablement d'autres plateformes que je ne connais pas. Si vous avez aimé cette émission, il ne faut pas hésiter à liker, partager et surtout venir en parler avec moi. J'adore échanger tant autour de la lecture que de l'écriture. Allez, c'est parti pour parler pognon. Alors pour commencer, je voudrais parler du prix psychologique des e-books, puisque j'ai eu l'occasion de faire un rapide sondage sur Insta. Alors ça n'a pas valeur d'étude de marché, bien évidemment, mais ça confirme d'autres sources. Et donc les résultats, c'est déjà que la majorité des gens sont prêts à mettre au plus 5 euros dans un e-book, et que la majorité des gens attendent un écart d'au moins 10 euros entre la valeur d'un e-book et la valeur d'un livre broché, soit un e-book à 10 euros pour un broché à 20 euros. Et enfin, la majorité des gens attendent un prix de vente de l'e-book inférieur à celui d'un livre de poche. Alors, je ne sais pas si vous retrouvez dans toutes ces constatations, ça montre bien quand même que l'e-book a moins de valeur émotionnelle, clairement, qu'un livre papier, qu'un broché, on s'en doutait, alors un relié, j'en parle même pas, mais même par rapport à un simple livre de poche. Alors, du coup, fort de ces constatations, dans la filière du livre, suivant le cas du broché et le cas de l'e-book, eh bien, la question que je me suis posée, c'est qui gagne combien? Et est-ce que ce prix psychologique de l'e-book permet aux différents acteurs de la filière, dont l'auteur, de gagner leur vie? Et ma vraie question, c'est qui peut sortir gagnant avec l'essor de l'e-book particulièrement visible depuis toutes ces vagues de confinement successives? Alors, si vous allez faire un tour sur la boutique Kindle d'Amazon, vous verrez qu'il y a un sacré contraste entre deux grandes familles d'e-books qui se dégagent. Vous avez la famille des éditeurs traditionnels et clairement, ils ne cherchent pas à développer leur vente d'e-books. Il n'est pas rare de trouver des livres de poche qui sont moins chers que la version numérique, voire même des livres brochés qui sont moins chers que l'e-book qui correspond. Là, il y a une querelle qui n'est pas sans rappeler celle du livre de poche dans les années 60, c'est dire que le sujet n'a rien de nouveau. En fait, le monde de l'édition traditionnelle, il opère une véritable opération de blocage de l'e-book depuis des années, et avec les confinements et les vagues de Covid, certains ont dû vraiment s'en mordre les doigts. Puisqu'à l'inverse, il y a la famille des auto-éditeurs qui profitent à fond de l'opportunité de l'e-book, qui est délaissé par l'édition traditionnelle. Et là, les prix sont beaucoup plus avantageux, puisque beaucoup d'e-books sont gratuits, une grande partie d'entre eux ne dépasse pas les 4,99€, ce fameux prix psychologique du lecteur. Et du coup, si vous prenez le top 100 des Kindle au classement Amazon, vous pourrez constater la présence de nombreux auto-édités, souvent bien loin devant les blockbusters de l'édition traditionnelle, comme des Guillaume Musso et autres. Car oui, pour être dans le top 100, il faut quand même vendre, et le lecteur n'a pas envie d'acheter la version numérique du dernier Musso à 13,99€, donc ça ne peut que profiter à l'auto-édition ce blocage de l'édition traditionnelle. Alors, qui gagne quoi sur un livre broché, déjà, pour commencer? Je fais référence là au rapport Guémard qui a explicité que sur un brochet à 20 euros, eh bien, l'État, via la TVA, touche à peu près 5% du montant du livre, soit environ 1 euro. L'auteur, lui, va toucher dans les 10%, 2 euros. L'éditeur va toucher 20%, 4 euros. L'imprimeur va toucher 10%, 2 euros. Le diffuseur-distributeur, lui, va toucher 20%, soit 4 euros. Et c'est le libraire qui, en pourcentage, touche la plus grande part, à savoir 35%, et donc avec 7 euros du prix de vente du brochet. Ceci étant dit, ce sont bon, des ordres de grandeur, des informations qui sont quand même assez cohérentes, qui restent assez vraies aujourd'hui. Et alors, du coup, si le prix de vente d'un livre passe à 5 euros pour sa version numérique, bah, qui sont les grands gagnants et les grands perdants sur la vente d'un roman? Eh bien, le premier grand perdant, c'est l'État, puisqu'avec l'e-book, comme la TVA est proportionnelle au prix de vente, bah, si les ventes sont moins chères, il y a moins de recettes, ça c'est clair. Quant aux libraires et aux imprimeurs, bien évidemment, ce sont les deux gros perdants de l'opération sur l'e-book. Il y a 100% de pertes pour eux, c'est pas nouveau, je vais pas ouvrir le débat ici sur Internet, les méchants GAFA qui asphyxient les gentils libraires et imprimeurs. En réalité, il y avait déjà cette question sur l'innovation du livre de poche à l'époque, qui avait transformé ces métiers. Donc on n'a pas attendu Internet et les GAFA pour écorner ces professions. Comme ces deux métiers deviennent inutiles dans le cadre du livre numérique, eh bien ça génère une économie facile de 45% sur le prix de vente. On peut enlever directement 9 euros sur les 20 euros d'un livre broché. Ah, on voit quand même que ça ramènerait le prix d'un e-book à 11 euros. On reste loin des 5 euros de prix psychologique. Alors, où est-ce qu'on peut trouver d'autres économies pour diminuer le prix de l'e-book? Eh bien, on va pouvoir les trouver déjà du côté du diffuseur. La diffusion, hein, c'est l'intermédiation entre l'éditeur et le libraire, car il y a toute une chaîne logistique dans le monde du livre, dont on a vu d'ailleurs l'importance hein, pendant le confinement de mars 2020. Le cas du diffuseur est assez particulier, puisqu'en fait, sur l'e-book, ce ne sont pas les mêmes diffuseurs qui diffusent du livre numérique et du livre papier. Ce ne sont pas non plus tout à fait les mêmes métiers, puisque dans un cas, on est sur un commerçant logisticien, et dans le cas du numérique, on est plutôt sur le cas d'un développeur informatique. Je fais assez rapide. Et la rémunération relative du diffuseur numérique est supérieure à celle du diffuseur traditionnel. 30 à 40% du prix d'un e-book va au diffuseur, contre 20% du prix du brochet. Mais la rémunération absolue du diffuseur numérique, elle est inférieure à celle du diffuseur traditionnel, puisque un e-book, il est tout simplement vendu moins cher. Alors, la chaîne de diffusion, elle baisse donc sa rémunération globale dans le cas de l'e-book, et on pourrait croire à une simple baisse de revenus de la filière. Non, les diffuseurs numériques ne sont pas les mêmes entités que les diffuseurs traditionnels. Les diffuseurs traditionnels, ils risquent de tout perdre, alors qu'ils ont une présence terrain avec des charges fixes élevées, des investissements, des commerciaux. Et à l'inverse, ces nouveaux acteurs de diffusion, ils sont apparus basés sur une informatique qui est en langage start-up, complètement scalable, et donc avec une même plateforme web, vous pouvez attaquer un marché colossal et donc amortir les frais de développement comme jamais aucun diffuseur traditionnel n'a pu le faire. Bref, c'est une méga occasion de s'enrichir comme pas possible. C'est vraiment le modèle Amazon et d'autres, hein, gagner plus en vendant moins cher. Et donc ces plateformes, elles s'en cachent pas, il vaut mieux diffuser 1000 auto-édités qu'un seul best-seller équivalent au fort pouvoir de négociation. Ça revient financièrement au même, et cerise sur le gâteau, auto-édité et lecteur sont captifs de la plateforme pour le livre, et donc ils vont acheter en plus d'autres produits plus rémunérateurs. L'éditeur, lui, il empoche ce qui reste entre le prix de vente et les différentes dépenses, hein, donc l'État, le diffuseur, l'auteur, et donc ce gain va permettre de financer le travail de sélection, les corrections, les maquettes, la communication, les services presse. Je vous renvoie à mon tout premier podcast. Avec un prix de vente à 5 euros, le compte n'y est pas. Ça semble manquer un peu des recettes par rapport au livre traditionnel. Alors, petit bémol, dans l'édition traditionnelle, l'éditeur prend, ou en tout cas une époque prenait, des risques. Il opérait un tirage offset à compte d'éditeur des livres qu'il mettait à disposition du diffuseur. Si les ventes étaient bonnes, il n'y avait pas de souci. Sinon, c'était retour à l'envoyeur avec la fameuse mise au pilon, c'est-à-dire la destruction du stock d'invendu, et donc une perte colossale puisque l'éditeur avait toutes les dépenses, mais pas de recettes en face, et donc il lui fallait des besoins en fonds de roulement colossaux pour ça. Enfin, c'était juste dingue. On va pas se mentir, depuis l'avènement de l'impression numérique, ça a un peu modifié la donne, puisqu'il y a de nombreuses, pour pas dire une grande majorité des maisons d'édition qui font imprimer des toutes petites quantités. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de risques. Bon, l'inconvénient, c'est que l'impression coûte un peu plus cher, et du coup, il y a une part plus importante qui revient à l'imprimeur numérique, et donc ce qui vient diminuer d'autant la part de l'éditeur. Avec un prix de vente de l'e-book à 5 euros, les petites maisons d'édition, elles gagnent grosso modo, la même chose qu'en impression numérique, avec des coûts de maquettage moindres, un risque plus faible et donc, au final, des marges supérieures. À l'inverse, les grandes maisons d'édition qui tirent en offset des volumes très conséquents, bah, sur un e-book à 5 euros, elles perdent 40% de leurs revenus. Donc vous voyez que là, il y a un gros contraste en fonction de la taille de la maison d'édition et donc de l'éditeur. Si l'e-book il est vendu à 10 euros, bah là, ça change complètement la donne. L'éditeur, il devient le grand gagnant de l'opération, ce qui explique d'ailleurs certaines pressions qui visent à rééquilibrer la part qui revient à l'auteur. Parce que justement, l'auteur dans tout ça, eh bien, il est rémunéré au pourcentage. Alors, on n'en parle pas beaucoup en France, tant l'e-book, c'est un sujet tabou, et puis d'ailleurs Amazon aussi. Ce pourcentage, eh bien, il est le même, quel que soit le support. Et donc, quel que soit le prix de vente. Et donc, sur un e-book qui est vendu moins cher, eh bien, l'auteur, tout simplement, il touche moins de droits. Dans le cas d'un e-book à 10 euros, l'auteur y perd 50% de sa rémunération par rapport au brochet à 20 euros. Dans le cas d'un e-book à 5 euros, donc le fameux prix psychologique des lecteurs, l'auteur y perd 75% de sa rémunération. Et donc, il n'y a pas de quoi ravir les auteurs qui sont attachés à des maisons d'édition, qui, elles, je le rappelle, n'ont pas perdu grand-chose avec l'e-book. Alors, cette relation éditeur-auteur, il faut bien les voir comme des vases communicants, puisque les faits sont là. Dans les plus grosses maisons d'édition, le passage à l'e-book entraîne une perte de rémunération plus importante pour l'auteur que pour l'éditeur. Ça peut sembler assez injuste pour les auteurs. Et dans les plus petites maisons d'édition, ce même passage du brochet à l'e-book, eh bien, il est carrément profitable aux éditeurs, alors même que l'auteur, il y perd beaucoup. Et là, c'est encore plus injuste. Dans certains pays, les droits d'auteur sur les e-books deviennent bien plus importants en pourcentage, allant jusqu'à 50-50. 50% pour l'éditeur, 50% pour les auteurs. Bon, en France, c'est a priori pas la norme, et du coup, l'auteur, bah, il perd une bonne partie de ses revenus. Alors déjà que la plupart ne vivent pas de leur plume, j'y reviendrai plus tard, dans un autre podcast. Alors, pour l'auto-édition, eh bien, l'auto-éditeur, il empoche à la fois la part de l'auteur et celle de l'éditeur. Donc, autant dire que c'est la voie la plus rémunératrice en soi. Alors, je reviens sur mon tout premier podcast sur le choix de l'auto-édition. L'auto-édition, ça reste de l'édition, et donc le travail de l'auteur n'est pas le même. Il empoche la part de l'éditeur, mais il faut qu'il joue aussi tous les rôles de l'éditeur. Forcément, c'est assez tentant, hein, de se dire que je vais gagner plus, d'autant qu'il n'y a aucune barrière à l'entrée quasiment. Il y a des outils fabuleux qui existent et la plupart sont gratuits pour pouvoir éditer ses propres romans. Il n'y a que le temps de l'auteur auto-édité qui est à rémunérer. Il y a quasiment peu publié des romans avec vraiment trois fois rien. En fait, l'auteur auto-édité qui est en perpétuelle professionnalisation, eh bien, il est le grand gagnant de l'e-book avec Amazon, bien évidemment. Les gros éditeurs traditionnels, ils sont frileux, hein, vis-à-vis de l'e-book, et ça se comprend, puisque l'e-book, bah, il pourrait vampiriser les ventes de brochets qui sont plus rémunératrices de base, tout en déstructurant complètement l'écosystème du livre, où chaque échelon a besoin de l'autre. Sans compter que le nombre de lecteurs au format numérique reste assez faible en France, et pour cause, vu les prix pratiqués. Même si ça progresse d'ailleurs année après année avec un gros coup de boost pendant le premier confinement. Du coup, investir sur l'e-book, ce serait faire beaucoup d'efforts pour pas gagner grand-chose de plus, donc autant dire que ça va pas les motiver beaucoup. Comme beaucoup de petits éditeurs se calquent sur les grandes maisons d'édition, eh bien toute la filière de l'édition traditionnelle a ce regard négatif sur le passage à l'e-book massif, et donc c'est pas gagné. Les modèles mentaux du secteur, bah, ça ne le permet pas. Éditeurs, imprimeurs, libraires, auteurs ont tous peur d'y perdre, et pour certains à juste titre. Le numérique est donc complètement délaissé par la filière traditionnelle et il laisse la place à de nouveaux acteurs. Certaines maisons d'édition agiles vont en tirer leur épingle du jeu et elles vont pouvoir vivre de leur métier grâce à l'e-book. Charge à elles de valoriser leur sélection éditoriale et leur professionnalisme pour aller titiller le prix psychologique haut de 10 euros. Et quant aux auto-éditeurs, ce sont eux qui ont probablement le plus à gagner avec le numérique au prix psychologique de 5 euros que le lecteur et prêt à débourser. Puisque sur un e-book à 5 euros, eh bien en fait, l'auteur édité, il va pouvoir toucher 60% du prix, là où sur l'e-book à 5 euros en maison d'édition, eh bien il ne touchera que 10%, autant dire pas grand-chose. Alors pour terminer ce podcast, je voudrais vous dire que bien évidemment, l'auteur auto-édité, bah, il gagne sacrément avant des brochets également. Et tous les auteurs auto-édités rêvent d'être présents dans les rayons des librairies. Sauf que là-dessus, bah, je vais faire référence à une conversation que j'ai eue sur Facebook il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui opposait Amazon et son libraire indépendant, en prenant la défense bien évidemment du petit libraire indépendant. Je mettrai un petit bémol dans ce débat en rappelant que les libraires indépendants, souvent, ils cherchent à vendre uniquement les best-sellers des grosses maisons d'édition, c'est-à-dire tout sauf l'indépendance finalement, et en fait, ils perpétuent ce système, cette filière traditionnelle. Et le libraire indépendant, qui devrait être sensible finalement à la cause de l'auteur indépendant, bah, la plupart du temps, il refuse de vendre l'auteur indépendant. C'est bizarre. Je trouve ça assez paradoxal d'aller demander la protection de leur indépendance au détriment de l'indépendance des auteurs. Voilà, c'est une petite réflexion comme ça en passant. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, ciao !